marchandise terre et de la pseudo marchandise travail libre. Donc, pour en terminer avec la rente, mais ça devient important, il faut comprendre les couleurs caractéristiques à ce qu'on appelle le fétichisme de la marchandise. Et là aussi, il faut jouer sur le mot en français de nature. Parce que le fétichisme de la marchandise au sens strict, c'est de considérer que la propriété de pouvoir s'échanger devient une caractéristique, alors je vais employer exprès un mot différent de nature, de l'essence, c'est-à-dire de la chose, une propriété intrinsèque de la chose qui est ça, le fétichisme élémentaire de la marchandise. Alors, quand ensuite vous appliquez ce phénomène avec des objets comme la terre, ou qui sont apparemment des choses naturelles, vous basculez du premier sens du mot, c'est-à-dire que ça devient une propriété intrinsèque de l'essence en termes, d'une manière un peu philosophique, pédante de la chose, à la nature, au sens où cette essence serait, par nature, si vous voyez, naturelle. Et donc du coup, ça devient seulement une caractéristique intrinsèque de la chose, mais ça devient une caractéristique naturelle. Donc c'est comme ça que Marx dit comme étant une propriété naturelle, donnée de naissance, si on veut, aux choses qui rentrent dans les échanges et non pas une construction sociale. Bon, alors tout ça, ce sont des rappels relativement classiques. Ce qu'il faut retenir dans les mécanismes justement de la rente foncière, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une possibilité de crise, de discordance entre l'ordre visible, justement l'ordre naturel des choses, et l'ordre invisible des résultats des fertilités. Alors, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des pages et des pages chez les classiques, depuis Jean-Baptiste C. Jusqu'à Marx en passant par Ricardo, qui s'étonne du fait que l'ordre des fertilités potentielles croissante des terres ne correspond pas à la géographique visuelle, si j'ose dire, des terres. Donc, si vous voulez, vous avez le fait que des terres difficilement accessibles sont plus fertiles que d'autres, etc. Et donc, vous avez tout un jeu possible de différenciation entre les produits qui vont être fertiles et puis ensuite les coûts d'acheminement des produits en question vers les autres. Et donc, vous allez avoir les rentes différenciées et qui vont plus ou moins rentrer en contradiction. Alors, ce qu'il faut retenir pour notre propos ce soir, c'est que vous avez du coup une espèce de décollement, de déconnexion entre naturel, l'ordre de la nature visible, et l'ordre économique des efficacités plus ou moins différentielles des choses. Et donc, c'est ce phénomène de décollement, de déconnexion, qui ensuite peut induire des phénomènes de spéculation, parce que comme les variables sont cachées, les fertilités ne sont pas connues, si vous inventez un nouveau procédé, vous allez pouvoir éventuellement améliorer la productivité d'ensemble. En quelque sorte un jeu spéculatif, et donc ça autorise des anticipations, des accès différentiels à l'information qui ont été évidemment massivement utilisés au XIXe siècle. Le cas de Paris, bon, il fallait être dans le secret des projets d'Haussmann, en gros, pour ensuite pouvoir faire des professions extrêmement importantes. Alors, dans le deuxième temps, essayer de déconstruire les catégories naïves d'espace et de temps dont nous héritons de cette vision positiviste de l'histoire dont nous avons eu énormément de mal ces dernières années. Alors, dans un premier temps, mais un peu pour mémoire, puisque ça avait fait l'objet d'un exposé de ma part l'an dernier, grâce à Benjamin, on peut mettre en question le fait que le temps soit conformément à la mécanique classique newtonienne reprise sans esprit critique par Emmanuel Kant, une grandeur réelle, homogène, continue, archimédienne, etc. La conception de la théorie de la valeur travail, que justement avec la notion de capital cognitif, il faut remettre en question. En fait, les concepts fondamentaux de tous les classiques, y compris Marx, sont directement inspirés par la mécanique rationnelle de la fin du XVIIIe siècle. Et on parle de force de travail, d'énergie, une substantification de la valeur au sens économique du mot, qu'on assimile à tout simplement une conception énergétique du travail. Mais quand l'énergie est prisonnière d'une physique qui, deux siècles plus tard, nous apparaît extrêmement datée. C'est-à-dire c'est une physique où on utilise le calcul différentiel et intégral, donc on suppose que le temps est continu, que les fonctions sont bien régulières, etc. Et toute l'économie classique ensuite, même néoclassique, n'est pas sortie de ce pari. Je pense que l'économie qui se prétend scientifique est un anachronisme désespérant. Donc je passe sur cette historicité du temps, parce que là, je renvoie plutôt aux thèses sur l'histoire de Walter Benjamin, qui montre qu'à un moment donné, justement, au fond, à chaque instant qui passe, vous êtes impossible. Donc vous êtes infiniment prêt, si vous voulez, il ressuscite, enfin là je vais sans doute parler sous contrôle, il ressuscite les théories des matérialistes de l'Antiquité, du Kinamen, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au fond, vous êtes toujours à la merci d'une bifurare. Pour des ingénieurs économistes, c'est désespérant. Vous ne pouvez pas avoir de calcul d'optimisation sur longue période, parce que la surprise à tout moment est possible. Bon, alors ça a été repris, je vois, Anne, par justement Deleuze et Guattari, avec leur notion d'angle du plateau en particulier, de chaosmos, etc. Bon, alors, la deuxième déconstruction qu'opère Benjamin, et ça c'est massivement présent dans cet énorme livre là, Paris, capitale du XIXe siècle, ou le livre sur les passages, c'est justement une notion de l'espace, qui aussi n'est pas un espace isotrope, mais que c'est troué de toutes parts par des failles, des perforations, et donc vous allez avoir continuellement des frontières mouvantes, instables, qu'il va falloir, etc. Alors, une fois qu'on a utilisé cette déconstruction, alors, mais ce n'est qu'une hypothèse, parce qu'ensuite, c'est là où je dois avouer mon infirmité, c'est-à-dire qu'une fois que, grâce à Benjamin, on s'est un peu dessillé les yeux, qu'on s'est débarrassé de la lunette positiviste, on se dit, mais au fond, mais on en est réduit à des conjectures, à des hypothèses, c'est-à-dire je n'ai pas fait le travail de 1000 pages de Benjamin là, sur accumulant des matériaux pour montrer la littérature de Baudelaire, de Balzac, etc., les catégories du capitalisme naissant, le fétichisme de la marchandise naissant, pouvaient expliquer, pouvaient être une clé de d'élucidation à la fois de l'espace parisien et des œuvres picturales ou littéraires de l'autorité, mettons, de Deleuze et Guattari, pour ne pas flatter les présents dans la salle, que, au fond, notre espace nous paraît de moins en moins homogène, isotrope, continu, etc. Et donc, il faut peut-être accepter que, au fond, il y a des temps différents. Bon, ça, on peut faire allusion à des travaux empiriques d'un sociologue du temps qui s'appelle William Grossin, qui montre comment dans la vie quotidienne, au fond, il y a une espèce d'enchevêtrement des écologies temporelles, où là, ce sont les travaux de William Van Der Peel ou de François Fourquet, qui montrent comment, au fond, à l'échelle internationale, d'espace mais qui correspond à notre modèle national de l'Hexagone. L'Hexagone, c'est tout un programme. Nous avons inventé, après tout, c'est pas mal, dans l'histoire, l'État-nation territoriale. Hein, la bataille de Valmy, vive la nation et fortune. Et donc, il y a eu une épidémie de nationalisme jusqu'au thé du 29 mai. Bon, blague à part. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la géographie, donc vous avez le traité de Westphalie, donc avec ces questions des frontières, vous avez une conception des États-nations territoriaux continentaux, dans lequel, quand il y a une frontière, soit vous êtes sous un souverain, soit sous l'autre, mais il n'y a jamais de terre exclue, il n'y a jamais de no man's land. Et quand vous comparez la révolution, les États-nations territoriaux continentaux, à la conception politique de l'Annique, et puis de nos jours à ça, vous apercevez que vous avez une autre conception de l'espace stratégique mondial qui n'est pas fait d'hexagones jointés les uns par rapport aux autres, une mosaïque d'états-nations territoriaux, mais vous avez, je vais appeler pour aller vite, par contraste, pour essayer de me moquer un peu de Fernand Braudel, des empires monde-archipel. Dans un archipel, vous avez des îles, certes, mais vous avez entre les îles des mers, et donc en droit, en droit international, ce sont les choses, ce ne sont pas des landes, enfin ce sont des espaces dans lesquels, au fond, il ne règne pas la loi d'un souverain, comme c'était le cas après le traité de Westphalie en Europe. Fondrement de... Enfin là, je suis un peu les thèses d'Alexandre Adler, c'est-à-dire qu'au fond, la dislocation de l'Empire soviétique, c'est la fin, au fond, de notre conception de l'espace politique, dont la matrice est le traité de Westphalie sur le continent européen. Et donc maintenant, on voit, à mon avis, apparaître un espace à l'échelle mondiale qui, évidemment, conserve les États-nations territoriaux, mais ça devient des îles, si j'ose dire, dans un empire monde archipel. Cette révolution de l'espace me conduit à, là aussi, à avancer un certain nombre d'hypothèses et à mettre en brique le fétichisme lui-même. Parce que le problème qui se pose au fétichisme de la marchandise, c'est comment ça fonctionne lorsqu'en quelque sorte l'économie fonctionne massivement sans marchandise. C'est-à-dire comment fonctionne le fétichisme de la marchandise. Alors vous pouvez lui dire, si ça fonctionne, s'il n'y a plus de marchandise, il n'y a plus de fétichisme de la marchandise. Ça, c'est la première solution. Et comme manifestement, une intuition empirique, de la même manière que tout intuitivement il y avait une résurrection des rentiers, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression qu'il y a plutôt une perfectionnification de la vie quotidienne, plutôt qu'une émancipation, etc. C'est ce paradoxe d'un fétichisme sans fétiche. Alors à mon avis, c'est là où à nouveau je m'inspire de Benjamin, pour dire que y a dans le capital, quand on fait une lecture synchronique, le capital avec un C majuscule, l'œuvre de Marx, donc il met en œuvre ce que j'ai appelé une dialectique des fétichismes. C'est-à-dire qu'au début, vous avez des fétichismes élémentaires au niveau de l'échange marchand ordinaire, donc fétichisme de la marchandise, fétichisme de l'argent et fétichisme de la circulation. Et puis ensuite, vous avez une espèce de dialectique énorme qu'on peut résumer d'une manière un peu hegelienne si on veut, et on aboutit après un tas de... donc des dizaines et des dizaines de pages de Marx, ça, au fond, des fétichismes les plus raffinés, qui sont les fétichismes qu'il expose justement dans la fameuse formulaire du capital. Donc ce sont des fétichismes liés, cette fois, non pas à l'argent et à la circulation, non pas au rapport de distribution, le salaire, l'intérêt et le profit, mais à des rapports de distribution purs qui sont justement, on retombe sur la rente, le salaire en tant que rapport de distribution et leur intérêt, c'est au fond.